Salut mon Clem, salut les potes, comment tu vas?
Salut Bast, ça va super bien et toi?
Ça va. Petite déception parce que finalement j'achète plus de maison. Et ça tombe bien parce que ce soir on va parler d'argent. Mais avant de commencer le sujet, qu'est-ce que tu bois?
Effectivement, on va parler d'argent et je bois notre petit Aberlour qu'on avait acheté ensemble, qui est ma foi bien délicieux. Tu loupes quelque chose? Et ça commence à être un peu la crise là parce que j'ai plus que ça et du compost box donc il va falloir faire le plein et ça coûte de l'argent aussi. Et toi, qu'est-ce que tu bois?
Moi, je bois un whisky canadien qui m'a pas coûté très cher, mais qui est pas mauvais. C'est le moment pour toi d'acheter du Yellow Spot, il me semble.
Ouais, bah là va falloir sortir la. Ça c'est la tirelire comme on dit.
En parlant de casser la tirelire, qui est un truc qu'on a quand on est petit, qu'est-ce que tu as appris en grandissant par rapport à l'argent? C'est quoi ton rapport que tu as avec tout ça?
Alors, l'argent, c'est un truc qui me suit depuis toujours. Déjà, je pense qu'on a un peu grandi de la même façon, mais tu sais, quand tu commences à jouer dans un jeu, etc., eh ben, t'as forcément besoin d'argent pour avancer. Et donc, j'ai très vite compris que si je voulais des trucs dans la vraie vie, bah, il fallait que j'aie de l'argent. Et donc, j'ai toujours été omnibulé par ça, toujours en train de calculer ce que je pouvais avoir à mon anniversaire ou à Noël en fonction de l'argent que mes parents me donnaient, tu vois. Un truc qui me suit depuis toujours. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu de l'argent de poche assez tôt. Je pense qu'à partir de 10 ans, j'ai eu de l'argent de poche. Et j'avais, en gros, la règle de mes parents, c'était tu as autant d'argent de poche que ton âge. Donc, 10 ans, 10 euros, 11 ans, 11 euros. Et jusqu'à mes 18 ans, je crois, c'était comme ça. Peut-être qu'à 18 ans, j'avais un peu plus, genre 20 balles, tu vois. Et donc, j'ai appris très vite à bah, essayer un peu de gérer cet argent, surtout que mon père est très à cheval sur ça. Je me rappelle que j'achetais des carnets pour essayer de noter ce que j'achetais ou pas. Mais c'était un peu ridicule parce que bah, j'avais pas non plus des milliers de cents. Et en plus, souvent, j'achetais des conneries, des bonbons, des machins. Donc, ça n'a pas duré trop longtemps, quoi. Et toi?
Moi, j'ai toujours été ultra dépensier à ne pas garder mes sous. J'ai jamais eu d'argent de poche. Quand j'en avais besoin ou envie, je demandais à mes parents de me donner un peu de monnaie pour manger dehors ou me payer un truc. Et j'apprends seulement récemment à gérer mon argent, essayer d'en garder. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai de l'argent, donc je me fais plaisir. J'ai toujours vu ça comme ça, le moyen de se faire plaisir à fond parce qu'on n'a qu'une vie. Mais le truc, c'est que dans 20 ans, si j'ai jamais rien mis de côté, bah je vais être dans la merde. Donc faut apprendre à gérer ça et je suis en train de commencer à le faire.
Ouais, je comprends. Je comprends. Après, tu vois, moi, j'ai eu de l'argent de poche très tôt, mais ça m'a pas empêché de dépenser à foison aussi. J'ai justement un rapport très négatif au début à l'argent parce que justement, je voyais un moyen d'en faire plus d'argent. Pour moi, avoir de l'argent, c'était me dire, OK, comment je peux l'utiliser pour gagner plus vite? du coup, je suis très vite tombé dans des choses pas ouf, genre paris sportifs. Le loto, les trucs comme ça, le casino aussi j'ai fait. Et donc je pense jusqu'à mes ouais, 19-20 ans, j'avais même je vais pas dire des problèmes d'argent parce que c'est pas le cas, mais souvent je piquais dans mes économies parce que je voulais toujours plus jouer et tout, donc j'avais une vraie addiction à ça. Et donc pendant longtemps, ouais, j'avais une relation assez mauvaise avec l'argent, et moi aussi j'achetais beaucoup des fringues, des trucs gadgets. C'est pour ça que j'ai travaillé très tôt, parce que pour m'acheter mes. Comme tu dis, avoir plus d'argent et pouvoir se faire plaisir beaucoup plus facilement.
Ouais, je comprends. Moi, j'ai jamais. Les paris sportifs, j'ai découvert ça il y a 3 ans, je pense. J'ai dû parier 3 fois depuis. Donc, une fois par an, on va dire. Mais c'est vrai que c'est vachement. Vachement. Enfin, c'est exceptionnel quand tu arrives à gagner de l'argent beaucoup plus que ce que tu as parié. Je me souviens d'une fois, j'avais parié sur un match de badminton, genre 20 balles. Et la cote, elle était énorme. Et en fait, ceux pour qui j'ai parié. Contre toute attente, on gagnait. Et je me suis fait genre 100 euros, tu vois. J'étais comme un fou. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien et tout. Bon, je retire tout de suite l'argent de l'application parce que sinon je vais le reparier et je vais le perdre. Et au final, j'ai dû m'acheter des trucs de merde avec. J'ai beaucoup vu l'argent comme une source de liberté. Mais je me rends compte aujourd'hui, avec l'achat de la maison que je voulais faire, que je n'avais pas assez de côté. Et du coup, je ne me sentais pas en sécurité non plus et serein dans les projets vraiment plus importants pour continuer sa vie, quoi.
Ouais. Ouais, je comprends. Moi, je pense que je l'ai plus vu comme une source d'angoisse, tu vois. Jusqu'à... Franchement, facile jusqu'à 21, 22 ans. Jusqu'au Covid, en fait, je dirais. Parce que j'avais une relation très mauvaise avec justement vouloir toujours faire plus d'argent, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, j'y arrivais pas. Hein. Mais je sais que très tôt, j'ai voulu monter une marque de vêtements, tu vois, donc il fallait de l'argent pour acheter des vêtements. J'achetais beaucoup de choses, des vêtements, un PC, tout ce qui était gadget, je voulais l'avoir. Et comme je te dis, ouais, je pariais beaucoup, et en fait, bah, quand tu tombes dans ce genre d'addiction, tu pioches beaucoup finalement, parce que tu sais pas gérer ton argent, donc forcément tu paries plus en te disant c'est pas passé cette fois, mais ça va passer la prochaine, je suis sûr, c'était vraiment pas grand chose, alors que c'est vraiment des jeux de hasard un peu, entre guillemets. Et donc pendant longtemps, ouais, c'était vraiment une source d'angoisse parce que bah, j'étais accro en fait, tu vois, je regardais mon compte tout le temps, je voulais toujours plus. Et jusqu'à ce que j'arrive à revenir à l'équilibre un peu sur mes pertes, sur cette addiction. Et là, je me suis dit, j'arrête tout. Je suis revenu à l'équilibre. J'ai gagné même un peu plus, je crois. Parce que vraiment, pour te dire l'addiction, c'est, je faisais tous les sites de paris sportifs et tu sais, je prenais toutes les offres de bienvenue, là. Genre, 100 euros pariés, tu gagnes le double ou t'es remboursé, je sais plus quoi. Et quand j'étais revenu à l'équilibre, j'ai fait stop, j'arrête tout. J'ai pu parier pendant longtemps. Et puis maintenant, bon, c'est plus du tout une addiction parce que je le gère très bien, d'ailleurs. Mais ouais, pendant longtemps, c'était comme ça et pourtant, mes parents ont toujours été en train de nous éduquer financièrement, bah justement avec cet argent de poche, à nous apprendre la valeur des choses, etc. Et moi, pour le coup, j'étais vraiment l'opposé. Donc, pendant longtemps, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'on a loupé avec lui parce qu'il part vraiment aux couilles.
C'est rigolo parce que du coup, tu viens mettre l'éducation dedans. Personnellement, je ne crois pas avoir eu d'éducation financière de la part de mes parents parce qu'ils n'en ont pas trop eu eux non plus. Et contrairement à moi, mon petit frère, lui, il est ultra économe. À chaque fois qu'il avait des sous, il les gardait et tout, tu vois. Et il s'en servait peut-être même pas pour acheter un truc plus cher plus tard, juste il les gardait. Il était content d'avoir des sous, je pense, je sais pas comment il voyait ça. Moi, j'étais en mode, mais t'as eu 10 euros, va t'acheter un paquet de Pokémon. C'est trop bien, tu vois. Et du coup, on n'a pas du tout la même façon. En tout cas, on n'avait pas du tout la même façon de gérer l'argent quand on était plus petit, alors qu'on a eu la même éducation, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté personnalité aussi qui rentre en ligne de compte.
Moi, je sais qu'un truc qui m'a marqué, c'est que ma mère nous disait beaucoup, quand tu auras ton argent, tu feras ce que tu veux avec. Parce que tu sais, souvent, tu vas au supermarché et tu dis, putain, mais moi, je veux ça, mais pourquoi toi, tu peux t'acheter ça et moi, j'ai pas le droit d'avoir ça. Et en fait, c'était son père, elle, qui lui disait déjà, tu feras ce que tu veux quand tu auras tes sous. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai très vite voulu tout avoir. Parce que j'avais cette idée en tête de c'est bon, maintenant j'ai un peu d'argent, je veux ça en plus, et je veux ça en plus, etc. Et pour le coup, je disais que le Covid m'a fait changer un peu ma façon de voir les choses, et aussi le fait de travailler, parce que j'ai fait beaucoup d'alternance depuis mes 19 ans, parce que je me suis posé, je me suis dit, ok, comment je peux investir cet argent de manière un peu plus intelligente quand même, avec une assurance vie, etc. Donc vraiment essayer de placer l'argent qui va dormir mais qui va aussi travailler un petit peu. Ça reste minime, bien sûr, c'est juste des économies pour plus tard. Mais c'était important pour moi de faire fructifier un peu ça pour pas juste que ça reste comme ça, surtout qu'à l'époque, il y a eu l'inflation, il y a eu les trucs. Et donc en fait, t'as beau gagner de l'argent, t'as beau le placer, si jamais tu le fais pas travailler, il va perdre de la valeur en fait. C'est avec l'inflation, obligatoirement, il perd de la valeur. Et tu vois, au final, je pense que c'est un peu aussi grâce à l'éducation que j'avais eue sur le fait de voilà, essayer de compter ce que tu fais, essayer de budgétiser ce que tu veux faire, partir en voyage, acheter du matériel, faire tes courses, etc. Et ça, c'est mon père qui me l'a inculqué. Et aujourd'hui, je fonctionne énormément comme ça, par coffre-fort un peu, en mode ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Et ça marche trop bien, en fait. T'as une sécurité financière et mentale. C'est tellement apaisant pour tous les jours que je reviendrai pas en arrière.
Ouais, c'est surtout l'avantage sur cette, comme tu dis, cette sécurité mentale. qui est ultra importante et qu'aujourd'hui j'ai pas forcément et que je recherche. Donc je m'entoure, j'apprends et j'écoute les potes qui donnent des bons conseils parce que j'en ai plusieurs autour de moi. Donc on essaie de s'améliorer là-dessus. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que, à ton avis, l'argent et la réussite, ça va forcément de pair?
Alors non, parce qu'on en a parlé dans d'autres podcasts de comment on pouvait définir la réussite chacun de notre côté. Maintenant, je pense que la phrase bateau, ça y contribue grandement en comment tu te sens dans la vie et dans comment tu abordes les choses. Mais ta définition de la réussite, pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec si t'as de l'argent ou pas. Il y a des gens très heureux qui sont très riches. Il y a des gens très malheureux qui sont très riches et des gens très heureux qui n'ont pas forcément beaucoup de sous. Mais enfin, je pense qu'on est un peu d'accord sur cette définition.
Moi, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur, mec.
Toi, t'es un connard.
Et celle-là, elle est pour Gaël. Je suis un connard et c'est OK. Non, c'est vrai que en fait, il y a différentes formes de réussite. Ta réussite personnelle, sentimentale, professionnelle. Et du coup, suivant le type de réussite que tu cherches à atteindre, en général, pour les personnes, une réussite professionnelle, c'est soit le poste de leur rêve et aimer ce qu'ils font, soit arriver à un poste où tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que bah, t'es reconnu dans ton entreprise, t'as des responsabilités, t'es une personne importante, entre guillemets, pour les gens autour de toi, dans l'entreprise en tout cas. Bah, pour beaucoup, c'est une forme de réussite. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on peut lier réussite et argent. Après, sur ma vision de la réussite, qui passe beaucoup plus par le côté personnel que professionnel, c'est-à-dire être bien entouré, avoir des amis autour de moi sur qui je peux compter, une personne que j'aime, une personne qui m'aime. Enfin, voilà, on a pu en parler dans d'autres podcasts. Je peux pas lier l'argent et la réussite dans ce sens-là. Mais je peux comprendre que certaines personnes fasse si pour eux la priorité c'est le monde pro et avoir un statut en fait, parce que malgré tout l'argent ça permet d'atteindre un certain statut que tu pourras pas atteindre sans argent, et pour certaines personnes c'est clairement le but ultime d'une vie, quoi.
Ouais, clairement, bah, je suis d'accord avec toi, je te rejoins un peu sur tous les points. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu cette comparaison, tu vois, avec ceux qui ont beaucoup d'argent ou des sentiments d'infériorité, potentiellement, dans certains cas?
Quand j'étais gamin, on était dans une école privée Montessori, qui coûtait très cher. Donc, il y avait beaucoup d'autres enfants qui avaient des parents beaucoup plus fortunés que les miens, qui ne sont pas fortunés, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pu parfois aller faire des goûters d'anniversaire, des trucs comme ça, où tu arrives dans la maison, elle est sur 3 étages, tout est magnifique, il y a une piscine à débordement. Il y a un jacuzzi dans la piscine. Tu te dis, waouh, ok, c'est quoi ce truc, tu vois. Et je sais pas si j'ai ressenti un sentiment d'infériorité ou de la honte. En tout cas, j'étais vraiment en mode, c'est trop cool, ça a l'air génial de vivre ici. Je veux ça. C'était de l'envie plutôt. Pas de la jalousie, parce que j'étais trop content pour les gens. Mais envie de connaître ça moi aussi. Parce que ça avait l'air trop bien, en fait. Après, c'était peut-être juste le moment qui était génial parce que c'était un goûter d'anniversaire, tu vois, ou un truc où c'est hypant, t'as plein de bonnes hormones et tout. Donc, je sais pas trop, mais c'est vrai que quand je repense, même encore aujourd'hui, à une villa sur les vignes, vue coucher de soleil sur la piscine, c'est exceptionnel. Et ça, il n'y a que l'argent qui peut te l'apporter.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, j'étais pas dans ce genre de maison, mais j'avais quand même des potes qui vivaient dans mon quartier. Et qui avait toujours les trucs dernier cri. C'est les vêtements, je sais pas, les téléphones, je dirais une bêtise, hein, mais les crampons au foot, ou tu vois, plein de choses comme ça. Et pendant longtemps, j'étais en mode, putain, je suis trop jaloux, moi aussi je veux pareil. Et en fait, ce que mes parents me disaient, j'en parlais un peu avec eux, ils me disaient, mais je pense que tu te rends pas compte, ces gens-là, est-ce qu'ils partent en vacances? Parce que j'étais à la campagne, dans un village, tu vois, c'était pas non plus, c'était pas Bordeaux-Centre. Est-ce qu'ils partent en vacances? Est-ce qu'ils font ça comme activité? Est-ce qu'ils vont visiter ça? Et puis quand je réfléchissais, je disais, ah ben non, bah non en fait. Juste, ils ont des vêtements de marque et ils ont les derniers trucs à la mode. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette chance de partir en vacances l'été, ils n'ont pas cette chance de vivre tout ce que je vis. Et donc j'arrivais à relativiser sur ça, mais pendant longtemps, ouais, j'étais jaloux un peu parce que bah, moi je voulais pareil, tu vois. Et après, avec le temps, j'ai appris à transformer cette jalousie en mode ok, je veux la même chose, mais pas parce que je suis jaloux, parce que moi aussi je vais avoir les moyens de vivre ça, tu vois.
C'est pour ça que t'as acheté l'iPhone 17 Pro.
Mes parents écoutent ce podcast, t'aurais dû te taire.
Du coup, t'as jamais ressenti de sentiment d'infériorité, de honte, parce que toi, t'avais pas le truc dernier cri et t'avais pas la sensation d'être à la mode comme tout le monde?
C'était pas de la honte, je pense que c'était plus de l'infériorité. En mode, lui, il est mieux sapé que moi, donc il vaut plus que moi. Mais c'était pas de la honte, forcément, parce que en vrai, j'ai jamais été à plaindre non plus, tu vois. Bah, comme je te disais, ils nous ont appris à budgétiser très vite. Donc, nous, on avait une session par an de shopping. Et donc, on avait le choix, en fait. On avait tant d'argent et on avait le choix sur ce qu'on achetait. Donc, j'avais quand même le droit d'avoir des choses de marque. Et j'étais très content de ça. Donc, non, j'étais pas à plaindre. Mais juste, bah, il y en avait qui avaient plus, comme forcément partout. Et donc, bah, oui, parfois, je pouvais me sentir inférieur, je pense. Avec le temps, c'est passé parce qu'aujourd'hui, je peux m'acheter ce que je veux. Mais. Et puis j'ai appris à me dire que bah, c'est pas grand chose par rapport à ce que tu peux vivre à côté, tu vois. Donc non, pas forcément.
Ok. Et tu disais juste avant que tes parents écoutaient le podcast, bonjour. Est-ce que du coup, c'est tabou pour toi, vu que t'avais l'air gêné quand j'ai dit que t'avais acheté le dernier iPhone 17 Pro, est-ce que c'est tabou pour toi de parler d'argent ou de ta gestion financière avec tes amis, ta copine, ou ton ex en l'occurrence, ta famille, etc.
Non, ça l'est plus. Ça l'est plus, mais je sais que... Ça me fait rire, bâtard. Pendant longtemps, petite anecdote, quand j'achetais des choses, et mon premier souvenir, je pense que ça remonte à... La vraie chose que j'ai achetée qui coûtait très cher, c'était un iPhone 10S. Et je me rappelle que à ce moment-là, j'avais un appartement qui était à 1 heure de route de chez mes parents. Et donc, j'avais fait livrer l'iPhone à cet appartement, sauf qu'il est arrivé un samedi. Et moi, je rentrais tous les week-ends chez mes parents. Et donc, j'avais prétexté que je restais à l'appartement parce que j'avais un truc le vendredi soir pour récupérer l'iPhone le lendemain. Et je leur avais pas dit, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça que je leur ai cachées. Bon, ils l'ont vu après, tu vois, je leur ai montré après que je l'avais acheté. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode... Il faut que je le cache. Je pense que j'ai fait ça avec mon premier PC, avec mon deuxième PC, avec ma moto. J'ai fait ça avec plein de choses. Donc au début, ouais, c'était tabou. Aujourd'hui, non, je m'en fous parce que déjà, je vis chez eux. Et en plus, ils savent que j'ai une macroute. Donc ils s'en foutent. Et je pense que depuis le temps, en fait, j'ai appris à gérer mon argent et à épargner et à tout simplement savoir quand comment je peux acheter des choses ou pas. Là, quand j'ai acheté le premier iPhone, je gagnais 700 €. J'étais en alternance, tu vois, c'était vraiment l'un des premiers trucs que je m'achetais. Et ça valait 1100 balles, tu vois. Donc, c'était pas rien, c'était un gros achat, c'était le SMIC à l'époque, tu vois. Donc, oui, je le cachais parce que je savais que mon père, il était un peu à cheval sur comment on dépense nos sous. Mais aujourd'hui, ça va. Hein. Franchement, je fais ce que je veux et puis ils savent très bien que j'arrive à gérer mes sous, donc c'est OK. Et toi, t'avais un peu de ce truc-là?
Avec mes parents, pas du tout. Avec mon ex, c'était pas tabou parce que je lui disais quand j'achetais des trucs. Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, j'achète des choses de manière compulsive ou des trucs qui sont pas essentiels. Juste, j'ai vu quelque chose, ça me donne envie. Bah, je prends pas forcément le temps d'y réfléchir, je le fais et j'achète. Même si au fur et à mesure des années, ma consommation a évolué parce que je me dirige vers des choses qui coûtent plus cher, mais qui vont durer beaucoup plus longtemps. Je pense à un truc, par exemple, j'ai acheté une poêle sur internet, je l'ai payé 150 ou 200 €, je crois, mais déjà elles sont garanties à vie, elles sont exceptionnelles parce que j'adore faire à manger, j'adore cuisiner, donc pour moi c'était vraiment un plus, mais en soi c'était pas du tout nécessaire. J'aurais très bien pu avoir une poêle à 10 € et ça aurait fait le taf, parce que je suis pas cuisinier non plus, tu vois, mais c'était un plaisir. Et c'est vrai que mon ex me faisait souvent la réflexion, ah, t'achètes ça, c'était pas méchant. Mais à un moment donné, moi, je le prenais un peu mal parce que j'étais en mode, mais c'est ma thune, je fais ce que je veux de ma thune. Au point que, bah, au bout d'un moment, je ne lisais plus forcément et je lui montrais juste une fois que c'était fait, tu vois. Je ne parlais pas forcément du fait que je voulais quelque chose. Je le faisais, je lui faisais, ah, bah, je vais acheter ça. Et derrière, en fait, c'est naze. Enfin, c'est franchement nul parce que je me suis mis la pression tout seul. Mais vis-à-vis de mes parents, jamais eu de tabou. Même avec mes amis, ça m'est arrivé de demander de me dépanner mes potes, tu vois. Et après, je les rembourse, y a pas de problème. Enfin, j'ai pas du tout de tabou avec l'argent. Si c'est des gens de confiance, j'ai pas de problème.
Mmh. Bah, tant mieux, en vrai. Hein. Enfin, c'est mieux. Moi, je sais qu'avec mon ex, au début, elle était très dépensière. Vraiment, elle dépensait tout ce qu'elle avait dans les fringues, principalement. Et je vais pas dire que je l'ai canalisé, mais j'ai appris un peu à lui dire franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Et elle est devenue pire que moi. Genre, vraiment, elle est devenue hyper... je vais acheter un haut à 50 balles, c'est la fin du monde, tu vois. J'étais en mode, mais attends, mais tu t'es... Écoute, tu deviens presque radine, quoi. C'est quoi ce délire? Et pendant longtemps, moi, je lui posais des questions, genre en mode, putain, j'ai envie d'acheter ça, un peu comme toi, t'es compulsif. Elle me disait, mais Clément, ça va te servir à quoi? Dans un mois, t'en voudras plus. Et elle avait raison, tu vois. Donc c'est vrai que parfois, c'est plus des, bah, juste une envie sur l'instant présent et te dire, ça va passer. Et par rapport aux potes, ma relation était un peu bizarre, du coup, comme j'étais un peu frustré plus jeune. Je voulais montrer que j'avais acheté des trucs. Et ça, c'était juste une question d'ego et de montrer que j'existais, tu vois. Mais aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je m'en fous un peu. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu comme ça. Et du coup, est-ce que t'as eu cette peur un peu d'être trop dépensier ou d'être radin? Est-ce que tu t'es senti jugé par ton ex un peu?
Non, je me suis jamais senti jugé.
Un petit peu, c'était quand même. Toujours...
Mais non, oh non. En fait, c'était toujours bienveillant parce que bah, je pense qu'elle se projetait pour plus tard et qu'elle savait très bien qu'il fallait avoir de l'argent à un moment donné pour nos projets de vie futurs qui n'arriveront jamais du coup. Mais je pense que vraiment que de base, c'était bienveillant. Et ce qui m'a amené à ne plus lui parler, lui faire part de mes envies à chaque fois, je pense qu'en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Je savais qu'elle avait raison. Et moi, je voulais pas qu'elle ait raison parce que je voulais le truc. C'était des caprices, en fait, je pense. Je voulais un truc et il fallait que je l'achète. Et si ouais. Quelqu'un me dit, mais ça va te servir à rien, oui, t'as raison, mais j'ai envie quand même. Du coup, par esprit de contradiction, je le fais, tu vois. Je pense que, avec un peu d'introspection, c'est toi qui m'as fait réfléchir à ça juste à l'instant quand t'as dit, elle avait raison. Donc voilà. Par contre, j'ai un ami proche à moi qui peut pas du tout parler d'argent dans son couple.
Ok.
0%. Si ça parle d'argent, c'est embrouille direct. Et je trouve ça super, super grave parce que l'argent, malgré tout, ça reste le nerf de la guerre. Enfin, tout se paye avec l'argent, tu vois. Et il peut pas du tout en parler parce que lui, pour le coup, il regarde beaucoup ce qu'il dépense. Il est très rationnel, en fait, de base, sur tout. Donc il va vite arriver à comparer les choses, les options, etc. Penser à chaque étape avant de faire son achat. Et il y a beaucoup de gens qui le voient et disent « Ouais, bah il va toujours au moins cher et tout, il est radin. » Alors qu'en fait, vraiment, il est ultra rationnel. Et à côté de ça, ça le dérange pas du tout de dépenser de l'argent pour se faire plaisir, aller manger des croustilles trois fois par semaine. Enfin, tu vois, c'est pas des dépenses que tu fais si t'es radin.
Mmh.
Et je trouve ça dommage de pas pouvoir en parler dans son couple. Parce que quand on arrive à avoir des factures communes, des crédits, le loyer, ce que tu veux, machin, si tu peux pas en parler, bah c'est compliqué parce que comment tu sais qui paye quoi? Comment? Enfin, je sais pas, toi si autour de toi, t'as déjà eu des expériences comme ça?
Je suis d'accord avec toi, si. Moi, dans mon couple, quand on a commencé à être ensemble, elle était étudiante et du coup, c'était un peu particulier en termes de dépenses parce que je me voyais pas lui dire paye la moitié alors que moi, je gagnais un salaire, tu vois. Au final, je crois que ça s'est fait comme ça. Donc je prenais peut-être un chouïa plus, mais je pense que c'était à équilibre, parce qu'il y avait ses parents derrière, etc. Donc très bien. Mais je suis d'accord avec toi, mec, dans ton couple, c'est trop important de pouvoir parler de tout, surtout comme tu l'as dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le centre de la vie, hein, vraiment, tout tourne autour de ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant un temps, moi, j'avais peur un peu d'être en fait, trop dépensier, ou même trop radin. Et ça va être hyper paradoxal, mais en fait, je m'achète beaucoup de choses, j'ai toujours été très dépensier sur ça. Mais en même temps, quand j'y vois pas trop d'intérêt, genre en soirée, des trucs comme ça, je me freinais et j'étais en mode non, pas pour moi, machin. Puis disais, ouais, mais si, je te paye un verre quand même. J'étais en mode putain, après, je me sens redevable, tu vois, de devoir donner quelque chose. Et donc, je me sentais un peu radin sur ce point-là parce que j'étais en mode bah, désolé, mais je t'ai pas forcé la main, tu vois, je vais pas te rembourser quelque chose que tu m'as offert. Genre. Donc il y avait des petits trucs comme ça, mais alors, généralement, j'ai des potes très bienveillants sur ça, donc j'ai toujours essayé de redonner ce que je devais, en tous les cas, parce que je fonctionne comme ça. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais un peu cette balance en mode je sais pas trop où me situer, quoi.
C'est vrai qu'au final, j'ai pas du tout répondu à ta question. Comme souvent. Perso, je me suis jamais... Si, j'ai répondu parce que j'ai dit que je m'étais jamais senti jugé. Mais j'ai pas du tout ce côté... Je me sens redevable, surtout auprès des potes. Dans l'exemple que tu donnes, quand on paye des verres, par exemple. Parce qu'en fait, je suis en soirée, je compte pas le nombre de verres que je paye et le nombre de verres qu'on paye. En général, c'est à peu près égal si j'en paye un ou deux de plus, ou l'autre, il en paye un ou deux de plus. Enfin, on tient pas des comptes d'apothicaire et... Souvent, ça se règle la fois d'après ou la fois d'avant. Enfin, voilà quoi. Et en ce qui concerne mon couple, c'est la seule personne avec qui j'ai habité. Et dès le début, avant même qu'on habite ensemble, j'avais posé les bases. Bah, on ouvre un compte commun, on fait toutes les factures sur ce compte-là, on met de l'argent tous les mois pour bah, payer le loyer, payer les charges, payer les courses. On payait tout avec le compte commun et du coup, tout l'argent qui nous restait sur notre compte, c'était vraiment pour nous et on en faisait vraiment ce qu'on voulait. Et je trouve ça trop important déjà de pouvoir parler d'argent. Et en plus, avoir un compte commun sur lequel tu vas faire prélever bah, toutes les charges et tout, ça permet vraiment de savoir bah, qui paye quoi, entre guillemets, parce que si à gauche, tu as le loyer sur son compte à elle, toi, tu vas payer toutes les courses, tu vas payer les charges en plus. Enfin, c'est pas vraiment équilibré, tu sais jamais trop qui paye quoi. Et ça peut mener à des disputes ou à des sentiments de déséquilibre. Et ça, c'est problématique.
Clairement. Bah nous c'est ce qu'on avait fait aussi, on avait fait un pseudo compte commun et ça marchait très bien et c'est vraiment le meilleur truc. Et après je te rejoins sur les verres entre amis, hein. Puis surtout que suivant ça dépend des statuts. Moi je sais que j'ai un pote, il avait un meilleur salaire que tout le monde, très vite, et en soirée bah, en fait il arrosait tout le monde tu vois. Et en fait tu pouvais pas suivre parce que le gars il t'offrait des verres tout le temps et en fait j'avais discuté avec lui une fois et je lui avais dit écoute Steven, c'est trop cool hein, ça me fait trop plaisir hein, mais mec tu fais pas, enfin, tu dépenses trop. Genre vraiment, c'était des sommes indécentes par sort, tu vois. Il disait, mais mec, moi, c'est mon kiff. Je veux vous faire partager, je veux vous donner. Et en fait, c'était son délire, tu vois. Juste, il kiffait donner, il kiffait partager, il kiffait bah, offrir des choses. Et donc, bah, parfois, bah, juste, tu peux pas suivre. Et puis, les mecs, ils kiffent. Et donc, tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'entre amis, parfois, ça m'est aussi arrivé d'avoir des, pas des quiproquos, mais en mode, bah, suivant les groupes avec qui tu traînes. Ça va être géré totalement différemment, tu vois. Là, tu vois, ce groupe-là, là, avec Steven, c'était vraiment en mode, bon, bah, on se redonne des trucs la soirée d'après, ou je te, ben voilà, j'essaie, pas à ton niveau, mais j'essaie de te donner un peu quand même comme tu m'as donné. Et pareil, au resto, ou des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres groupes de potes où c'est totalement inverse. C'est, on calcule tout au centime près, et bon, c'est OK aussi, parce qu'au moins, tu sais que tout le monde doit quoi, mais comme quoi, ça peut changer aussi suivant les personnes, quoi.
Ouais, je comprends. Moi, j'avoue que au resto, j'aime bien séparer pour que chacun paye exactement ce qu'il a consommé et commandé. Parce que si on va au resto tous les deux, tu prends une entrecôte maturée à 60 euros, je prends un fish and chips à 20 balles. Bon, vas-y, ça fait un peu chier. Mais en soirée, je sais pas, c'est pas, je le vois pas exactement pareil. Ça me dérange pas du tout de payer un verre, même si moi, je prends un Perrier, tu vois. Et le prix, c'est pas du tout le même entre les deux. Mais pour autant, je sais pas, ça me dérange pas, j'ai pas l'impression que ce soit la même chose.
Ouais, après le resto, pour moi, ça a évolué avec le temps. Parce que quand tu deviens plus âgé, entre guillemets, bah, tu commences à avoir des bouteilles de vin, tu commences à avoir des apéros, etc. Et souvent, en fait, il y en avait un de nous qui disait moi, je prends telle bouteille, moi, je prends telle bouteille. Et souvent, quand t'as une bouteille, t'en as une deuxième, parfois trois, tu vois. Et donc, en fait, chacun payait sa bouteille et il y en a qui payaient jamais rien. Et d'ailleurs, ça a été le souci de quelques soirées. En mode, bon là, t'es bien gentil, mais t'as été rincé, donc genre à toi de faire l'effort aussi de proposer. Et c'est vrai que malheureusement, ben, parfois on se rend pas compte dans certains groupes, mais il y a des gens, ils ont pas les moyens, tu vois. Et pourtant, ils profitent quand même de la chose, mais en même temps, tu peux pas lui dire, bah non, tu bois pas, t'as pas de thune, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions sur ça, mais si c'est des vrais potes, généralement, tu t'en branles, quoi. Genre, tu sais que peut-être qu'un jour ça sera repayé ou pas, mais tu pars du principe que. Bah, je sais qu'il y a forcément des gens qui n'ont pas les moyens, et donc je sais que chacun paiera avec ce qu'il peut payer, donc c'est pas grave si je prends plus, quoi.
Oui, je comprends. Bah, j'ai un exemple récent aussi, un de mes meilleurs amis qui a acheté une maison. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé au chômage juste après. Et du coup, c'était compliqué parce que bah, plus de salaire, pas tout de suite, tu touches pas tout de suite au chômage. Il te faut un mois, je crois, ou un mois et demi, enfin, t'as un mois et demi décalage. Donc du coup, on voulait quand même fêter bah, le fait qu'il ait sa maison et tout. Bah, je lui ai acheté une plancha électrique, j'ai payé des trucs pour qu'on mange chez lui. Sans qu'on sorte, parce que forcément, quand tu sors, ça coûte beaucoup plus cher. Mais derrière, je m'attends pas du tout à ce qu'il me rembourse quoi que ce soit et tout. Et je sais que sans que je lui demande rien, bah, si jamais j'ai besoin, il ferait pareil. Donc, j'ai vraiment une relation saine, je pense, avec l'argent et mes amis. Donc, c'est cool.
Mieux en vrai, tant qu'il n'y a pas de tabou, c'est le plus important. Hein. Mais ouais, en vrai, l'argent ça doit rester un moyen et pas forcément du coup être une fin à tout. Moi je sais que j'essaie de faire de plus en plus de choses où il n'y a pas forcément de l'argent en jeu, comme ça tu sais que bah, tu as du plaisir et t'as pas forcément investi de l'argent. Je pense qu'on oublie très vite aussi qu'on peut faire des choses sans argent. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai très vite voulu avoir de l'argent en faisant de l'argent. Parce que j'avais très bien compris que en fait, ça pouvait te servir à créer des choses, ou du moins à... c'était un moyen pour en faire plus. Mais bon, après, bon, j'ai eu mes expériences, hein, mais ça m'a aidé aussi à investir plus tôt, à me dire qu'il fallait que je mette dans des placements financiers. Et c'est peut-être pour ça, après, qu'on a chacun notre vision des choses, hein. C'est que finalement, ça a tellement de, comment dire, de d'utilité dans la vie que s'en servir pour ce qu'on veut, que ce soit plaisir ou investissement, mais que ça devienne pas une fin pour tout, quoi.
De toute façon, l'argent, c'est ultra, ultra personnel. Donc, chacun aura sa gestion, son rapport vis-à-vis de l'argent. Et on est très curieux de savoir comment vous gérez votre argent. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. On lit les commentaires et on y répond aussi. Et c'est toujours intéressant. Et n'hésitez pas à faire des retours en message privé ou dans la vraie vie parce qu'on en discute et ça fait toujours plaisir.
Est-ce que tu te sens riche, mon petit Bastien?
Je suis riche de mes amis, mon petit pote.
C'est le plus important, je dirais.
Mais sinon, tu fauchais.
Merci. À deux doigts d'acheter une maison, mais fauché.
Non, en vrai, niveau argent, enfin, je suis très, très, très loin d'être riche. Pourtant, je gagne très bien ma vie pour un premier emploi, pour mon âge. J'ai l'impression, en tout cas. Mais j'ai l'impression en même temps que mon salaire, il arrive et le 3 du mois, il n'y a plus rien. C'est un peu horrible parce que je me dis, mais comment ils font les gens qui gagnent 600, 700 euros de moins que moi, comment ils font? C'est pas possible.
Il y a un truc qui est assez ouf, c'est que j'avais vu, c'est que en fait tu fais en fonction de ce que t'as. Hein. C'est si jamais moi je sais que quand je vivais dans mon appartement et que je gagnais 700 balles par mois, bon je crois qu'il y avait les aides et tout, donc je montais à peut-être 900, un truc comme ça. Et en fait tu vis différemment. Juste je mettais pas de côté et puis je vivais, je payais mon appart, ma bouffe et puis après j'en profitais quoi.
C'est vrai ce que tu dis. Parce que personnellement, si j'ai de l'argent sur le compte, je le dépense. Donc maintenant, je sais que quand j'ai le salaire qui arrive, il faut que j'enlève tout de suite ce que je vais mettre de côté pour le mois, plus ce qui restait s'il y avait des restes. Et au moins, je fais en fonction de ce que j'ai et de ce que je vois sur mon compte, quoi. Parce que sinon, je dépense tout. J'aime trop acheter.
Je crois que c'est toi qui m'avais dit que t'attendais la fin du mois pour mettre de côté ce qui te restait, non?
Ouais.
Parce que bah c'est vrai que moi je fais l'opposé du coup. Genre dès que j'ai l'argent, je vire tout ce que je vais pas, tout ce que je veux placer, et après j'utilise ce qui me reste, quoi.
Mais en fait, du coup, j'ai changé de mentalité, j'ai fait un petit changement de paradigme. Maintenant, je fais comme toi. Je mets de côté ce que je veux mettre de côté. Au moins, je le compose avec ce qui me reste. Et s'il me reste de l'argent malgré tout à la fin du mois, parce que j'ai moins dépensé, je suis moins sorti, j'ai moins acheté de trucs, bah ça fait toujours plus d'argent mis de côté dès que j'ai mon nouveau salaire, quoi.
Plus smart. Mais sinon, ouais, être riche, hein, je disais ça pour rigoler, hein, on peut être riche de plein d'autres façons différentes. Comme tu l'as dit, des amis, etc., de tout ce qu'il y a autour. Au final, l'argent, bah, on l'a dit, hein, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est de kiffer sa vie tout en sachant qu'il faut prévoir le futur aussi. Donc, avoir un juste milieu et une balance.
Ouais, faut être en paix avec ce qu'on a.
Exactement. Exactement.
Bon, je te fais des bisous, mon Clem. Merci beaucoup. C'était intéressant.
Ouais, des gros bisous, c'était vraiment intéressant. Un sujet qui change encore, j'aime bien ça. On alterne pas mal en ce moment, c'est pas mal.
Ouais, mais je pense qu'on va vite revenir à d'autres trucs.
À nos premiers amours?
Ouais, peut-être.
Ouais.
Ah non, mais on avait promis un épisode sur le désamour. Je pense que ça
C'est
devait être
vrai.
au tout premier podcast. Donc
C'est
peut-être
vrai.
que ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'hésitez pas à
Il
nous
va
demander
falloir.
aussi à nous dire ce que vous voulez entendre, même si au fond vous en foutez peut-être, mais ça peut être intéressant.
Exactement.
On vous fait des bisous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter. Puis à la semaine prochaine.
Des bisous à la semaine prochaine.